Qui?
Willette.
J'ai pas d'accord.
Willette.
J'ai un peu de misère.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Tarif. Il y en a, il y a de fins renards qui avaient remarqué que Vincent Geloso n'était plus hebdomadairement avec nous. Effectivement, on a rebrassé un peu les cartes. On savait qu'on s'en allait en campagne provinciale électorale. On voulait rentrer des nouveaux. Puis c'est pas... Écoute, c'est un choix difficile parce que j'adore Vincent Geloso. Je l'adore tellement que j'ai réussi à le convaincre. Il dit, regarde, de temps en temps, là, Vincent, on va avoir besoin de toi. Et c'est arrivé plus tôt que tard, à la deuxième semaine. J'ai écrit à Vincent Geloso, notre économiste préféré, pour dire, écoute, je pense que ça... Une petite mise au point sur comment ça marche des tarifs, parce que encore une fois, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'émotions dans la crise actuelle et très peu de faits et très peu de pieds sur terre. Les tarifs, c'est devenu une espèce de mot-clé, là, un mot-code qui fait ressortir notre colère. Puis là, ben, les tarifs, on est attaqué, on va contre-attaquer, comme si on s'envoyait des missiles, alors que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Il va nous expliquer ça, puis je pense qu'il va nous redire un peu ce qu'il nous a déjà dit. Monsieur Geloso, premièrement, bienvenue. Deuxièmement, les tarifs, là, comment ça marche?
Ben, premièrement, merci de me revoir. Écoute, je pleurais sans cesse depuis que tu m'as flushé.
C'était. Flushé!
Tu sais pas, écoute, je pleurais dans. Tu sais, écoute, je suis comme un député qui a besoin d'attention des fois. Je pleure quand j'ai pas de journaliste qui me parle.
Parce que c'est vrai, tu manques de job, hein, aussi, toi, t'as pas.
C'est ça, j'ai rien d'autre à faire. Sarcasme ayant été fait et mis de côté. Un tarif, ce que c'est un nom étrange qu'on a pour des taxes. Taxes qui s'appliquent spécifiquement à des produits qui sont importés et historiquement, la raison que c'était fait, c'était un surprime au prix. Donc, il y avait un agent des douanes qui se présentait et il disait le tarif a été payé, la taxe a été payée. Donc, historiquement, c'est ça. Mais c'est une taxe. Ça fonctionne comme une taxe. Ce sont les consommateurs canadiens qui achètent des biens étrangers ou pour des compagnies qui achètent des intrants de l'étranger qui se retrouvent à payer.
Là, on me dit, ouais, mais eux autres, ils le font. L'autre bord, ils le font. Donc, première affaire, j'entendais ça quand j'étais petit. Mes tantes disaient, si quelqu'un jette en bas du pont, t'es pas obligé de te jeter en bas du pont. C'est ça, c'est une espèce de phrase pour nous dire, si quelqu'un fait quelque chose que toi, tu juges qui n'est pas nécessaire, t'es pas obligé de le faire. Et je pense qu'au-delà de ça, il faut aussi peut-être mettre en compte la grosseur du marché puis sa force, là.
Ben, écoute, c'était une instance ici comme quoi que nos grands-mères en savaient plus que des politiciens qui ont été élus. Puis bon, ma grand-mère, moi, était particulièrement brillante, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je présume que la tienne disait la même chose. Fait que ça a l'air que la leçon est là pour tout le monde. Parce que c'est exactement ça, tu te fais mal avec des tarifs. Des tarifs, c'est une taxe que tu t'imposes. Et les gens ont une mauvaise compréhension de comment le commerce international fonctionne. Donc, tout d'abord, quand tu importes, techniquement, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de vendre des dollars canadiens à d'autres personnes parce que tu donnes des dollars canadiens. Donc, ça se voit dans un autre compte qui s'appelle le compte du capital. Et ça veut dire que tu le vois avec des changements dans l'investissement. Si tu te mets des taxes à l'importation, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de limiter ta capacité d'avoir des investissements étrangers qui viennent au Canada. Donc, tu t'appauvris de cette manière-là. Puis des fois, tu peux même t'appauvrir de manière très dynamique. C'est-à-dire que si, disons, tes compagnies ont besoin d'importer des intrants pas chers de l'étranger et que ces intrants sont maintenant plus coûteux, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, maintenant, ils sont moins compétitifs lorsqu'ils veulent exporter parce que leurs coûts sont plus élevés. Donc, en fait, tu réduis même tes exportations quand tu taxes tes importations. C'est quelque chose que les économistes savent depuis longtemps, mais qui est complètement ignoré dans la conversation, mais qui est très clair, c'est que les tarifs appauvrissent des nations. Ils ne sont pas des manières de s'enrichir. Mais là, tu sais, les gens vont dire « Ouais, mais ça répond pas aux considérations politiques. » C'est pas la bonne manière d'y penser parce que les contre-tarifs, l'idée que tu te sers de tarifs pour négocier contre d'autres tarifs, ça n'a pas marché. En fait, la dernière fois que ça a été essayé sur une échelle large, c'était dans les années 30, après que les États-Unis aient imposé un tarif qui s'appelait « Smoot-Hawley ». Et c'était un tarif très élevé. C'était une des plus grosses augmentations de tarifs dans l'histoire des États-Unis jusqu'à la date récente. Ça partait d'un niveau plus élevé, mais la proportion d'augmentation était gigantesque. Et il y a plusieurs nations qui ont voulu essayer de répondre en disant « Ah, on va nous-mêmes augmenter nos tarifs pour punir les États-Unis, pour qu'ils arrêtent. » Le Canada a participé à ça avec un premier ministre qui s'appelait Robert Bennett. Et ça a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Tout ce que ça a fait, parce que les années 30, c'est la Grande Dépression, ça a juste empiré la Grande Dépression. Ça a rendu ça a fait une contraction de l'activité économique qui est encore plus grande. Donc, pendant qu'on avait mal, on a fait une politique publique qui nous a fait encore plus mal, mais qui n'a pas enlevé les tarifs américains. Puis c'est pour ça que pour toutes les années depuis, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'instance de pays qui se sont servis de ça comme un outil de négociation.
Ouais. Bien, en fait, il y a nous et la Chine.
Parce que ça marche pas.
Oui, mais il y a nous et la Chine. Puis là, je dois poser la question. Est-ce que size does matter? C'est-à-dire, les Américains, ils le font. Puis là, on va dire, ben oui, mais donc, ils font de façon consciente mal à leurs consommateurs. Moi, je pense que la grosseur du marché et l'attraction du marché change la donne. C'est-à-dire qu'on l'a vu, là, il y a plusieurs compagnies canadiennes qui ont dit « Bon, ben d'abord, on va ouvrir une manufacture aux États-Unis. » Donc, lui, c'était ça son point. Si vous ne voulez pas payer de tarifs, venez vous installer chez nous. Alors qu'à l'inverse, le Canada est très peu attractif. Donc, ça ne fonctionnera pas. Même que, je te pose la question, est-ce que ça ne peut pas même accentuer cette fuite-là vers les États-Unis?
Je pense pas que c'est la bonne manière d'y penser.
Non.
Premièrement, parce que... Mais sur la taille, tu as raison. Donc, je vais comme casser un peu ta question en deux parties. Ouais. Sur la taille, tu as absolument raison. Les États-Unis, la raison que quand je te disais tantôt que ça n'a pas marché d'essayer de faire de la rétorsion contre les États-Unis dans les années 30-40, la raison que ça n'a pas marché, c'est parce que les États-Unis, c'est un très gros pays. Donc, les petits pays n'ont pas une capacité à pouvoir rétalier aussi agressivement. Mais aussi, s'ils voulaient faire coalition, ça s'effondre constamment. Chaque fois que des pays ont essayé de se coaliser pour imposer des pressions sur un très gros pays, donc plusieurs petits ensemble, la coordination est trop difficile entre gouvernements qui chacun a leurs propres considérations politiques qui sont en conflit l'un avec les autres, qui sont mutuellement exclusives. Ça fait en sorte que ces coalitions-là s'effondrent et ils ne sont pas capables de le faire. C'est pourquoi il n'y a personne qui trouve que les contre-tarifs... Tu peux pas trouver d'exemple que ça a très bien marché pour générer les objectifs que tu voulais contre un pays qui vient de t'imposer des tarifs. Maintenant, l'effet pour les États-Unis, la manière d'y penser, c'est que est-ce que tu es une petite économie ou est-ce que tu es une grosse économie? Quand tu es une grosse économie, tu as plus d'économies d'échelle, d'une part, à l'intérieur de ton pays qui existe, mais aussi, donc là, c'est-à-dire que tu peux avoir des industries qui sont un petit peu moins coûteuses, mais en plus, tu as une influence sur les marchés étrangers. Donc, ça, c'est en économie, on appelle ça « optimal tariff ». Puis c'est l'idée que les gros pays, eux, vont toujours moins souffrir de mauvaises politiques commerciales. Donc, s'ils font du protectionnisme, ça leur fait un peu moins mal que des petits pays comme le Canada.
Ouais.
Mais là, ici, tu viens d'avoir tout... Avec ça, je viens tout te décrire. Les États-Unis, c'est un gros pays. Les tarifs vont leur faire mal. Ils vont se faire mal à eux. Mais ils vont se faire mal moins proportionnellement que nous, on va se faire mal parce que la nature de l'économie canadienne, c'est d'être une petite économie ouverte.
Donc, on va poursuivre avec la conclusion, c'est-à-dire, professeur Gélozo, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis j'en connais ta réponse. C'est pas la première fois qu'on en parle. Tu me l'as déjà donné, cette réponse-là.
Bon, mais bonne journée, on raccroche.
Mais je veux que tu la répètes et je veux surtout essayer de comprendre. Qui sont ces conseillers politiques qui disent au gouvernement de ne pas faire ça? Parce que, clairement, il y a un autre game. Puis là, on tombe dans le politique. Là. C'est inévitable.
Bon, écoute, la réponse que j'ai, ça s'appelle la libéralisation unilatérale. Tu enlèves toi-même tes tarifs. Donc, tu enlèves tes barrières à la concurrence. Tu enlèves tes barrières non tarifaires, parce qu'il existe aussi des barrières non tarifaires, comme par exemple dans les télécommunications, dans le secteur bancaire.
Même entre les provinces, d'ailleurs.
Même entre les provinces, donc tu devrais enlever ces barrières-là, tout commencer. Fait que ça, c'est la réponse que je dis, parce que c'est pas parce que la meilleure chose possible, qui serait que tous les pays libéralisent en même temps, ce qui est l'idéal, si ça, c'est pas disponible, ça veut pas dire que la deuxième meilleure option devrait être abandonnée aussi. La deuxième meilleure option, c'est que nous, on fasse cavalier seul. Maintenant, pourquoi est-ce que les politiciens, c'est quoi les conseillers? Écoute, je vais te conter une histoire, puis ça implique Jean Charest. J'ai déjà rencontré Jean Charest à deux reprises Et une des fois, la conversation a parlé du libre-échange et il comprend très bien que le libre-échange, c'est bien. Et il comprend très bien les coûts du protectionnisme dans toutes ses dimensions.
Oui.
Que ça augmente les prix pour les consommateurs, que ça augmente les prix pour les producteurs, que ça crée une situation dans laquelle les gens peuvent faire plus de lobbying. Donc, il comprend très bien
la logique froide, là, oui.
Exactement, il comprend très bien la logique froide. Jean Charest, c'est un exemple. J'ai rencontré des libéraux, des conservateurs, des nouveaux démocrates, des gens du PQ qui ont tous dit la même chose. Maintenant, dès que la caméra, elle ouvre, après qu'ils aient dit toutes les choses qu'ils disaient comprendre, la chose que moi, je viens de te dire,
ouais.
Dès que la caméra est activée, ils ont changé, le discours change. Largement parce que ce qu'ils savent, c'est difficile à communiquer aux gens. Ils ne sont pas les meilleurs communicateurs en général sur le sujet. Et les gens ne comprennent pas vraiment les coûts du protectionnisme. C'est difficile à comprendre. Et même si eux le comprennent, ce qu'ils font après, c'est qu'ils veulent gagner des élections parce qu'ils comprennent ce que les gens veulent. Mais je pense que c'est le temps qu'on dise une chose. Si c'est vrai que politiquement, ça paye pour eux d'embarquer dans le jeu du protectionnisme, ce n'est pas eux des hommes d'État. Alors, quand on dit « Ah, il fait le grand homme d'État », on entend ça de M. Ouais. Carney, on entend ça de Rob Ford, qui dit qu'il est un grand homme d'État.
Non, c'est Doug, non, c'est Doug tu l'avais, c'est Doug, Rob.
Ah oui,
Rob,
c'est moi, là, Rob.
Robbie. Ouais, c'est ça. Je les inverse, toi et deux, pour des raisons.
Ding-a-dong.
Ding-a-dong. Puis c'est pas mal. Ding-a-dong, c'est un bon résumé de la chose. Mais c'est pas des hommes d'État parce qu'ils sont en... Ils savent pertinemment qu'est-ce qu'ils disent. Ils savent pertinemment que ce qu'ils disent, c'est pas vrai et que c'est coûteux. Et ils sont en train de faire de juste essayer de gagner, de faire de la bonne politique. Mais ce n'est pas d'eux des hommes d'État. Ne leur donnez pas ce respect qu'ils demandent, qu'ils essayent de s'imposer un peu comme un jeu de mascarade. Ce n'est pas vrai. Ils sont fondamentalement en train de jouer un jeu politique.
Dangereux.
D'essayer de jouer sur vos émotions. Et qui sont tout à fait compréhensibles, soit dit en passant. C'est pas en train de dénigrer l'état des émotions, mais eux sont en train d'essayer d'exploiter ça pour des fins politiques, alors que la seule vraie réponse, elle est en dehors de la question des tarifs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres mécanismes qui devraient être utilisés, ou même tout simplement d'ignorer le président et de comprendre qu'éventuellement, les vents changent, les politiciens payent des coûts, ils s'ajustent. Donc, des fois, ça veut juste dire, ben écoutez, on va pas se faire mal parce que ouais. L'autre a décidé de nous faire mal.
Ouais. Mais là, on viendrait de gaspiller une belle crise, là. Colin, ça se gaspille pas, ça. C'est tellement... Comment? C'est une belle fraise mûre, là. Tu jettes pas ça, hein?
Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des crises que tu devrais les exploiter. En fait, c'est les pires moments pour faire des politiques publiques dans des moments de crise parce que les gens sont émotifs. Puis après ça, on le voit 4, 5, 6 ans plus tard. Mon Dieu, on a trop surréagi. Et souvent, en fait, ton doigt est dans l'engrenage puis tu peux pas l'enlever. Donc, il y a un peu un effet de... En anglais, on dit ratchet effect, mais on dit en français, on dirait un effet de cliquet,
ouais.
Que tu peux plus revenir en arrière une fois que tu as fait ces choses-là. Donc, arrêtez de réagir émotionnellement. Ouais. Surtout, arrêtez de réagir émotionnellement parce que c'est ce que le politicien veut de vous.
Là, c'est moins une question d'économie, c'est plus ton opinion. Parce que là, je vois, là, on s'est beaucoup basé sur le fait qu'on a l'impression que c'est 100% là, de tout ce qu'on fait aux États-Unis, qu'il y a des tarifs. Puis là, ça commence à sortir de plus en plus. Là, je vois ça bouger. Là, tu sais, c'est 5%, entre autres, que ça vise. Donc, contrairement à ce que laissent paraître nos politiciens, Carney, Fréchette là, et les autres, tu sais, c'est pas tant. Là, c'est pas 95% de notre économie. Puis l'autre aussi que je vois énormément, puis là, ça sort également comme information, là, partout dans nos journaux québécois, sur Twitter, c'est le fait que Jameson Greer qui accuse le Canada d'inventer des histoires sur le français, là, comme de quoi qu'on s'est retiré des négociations parce que le français, il en voulait pas les Américains. Puis là, les Américains font une sortie pour dire ça n'a pas rapport, y a pas, c'est inventé. Est-ce que tu penses...
Je ne joue pas ce jeu-là parce que ici, ça, c'est le jeu que les gens veulent qu'on joue sur les émotions. Parce oui. que c'est comme si tu disais si le deal était vraiment mauvais, maintenant, ça justifie la réponse. Mon point, c'est que peu importe qu'est-ce que tu penses du deal, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, que tu sois un Trumpiste complètement cinglé ou que tu sois un Olivier Niquet qui a peu de compréhension de quoi que ce soit de l'économie, puis tu donnes tes opinions à brûle pour point, ça change absolument rien. Ou que tu sois à Jameson Greer, donc trois personnes d'à peu près de la même qualité que je viens de décrire.
Ah,
mais,
OK.
Non, je suis baveux, là, mais je pense être un peu tanné du populisme économique. Mais ça ne change rien au fait. Parce que l'ordre des mauvaises politiques publiques, c'est la pire option, c'est d'accepter un mauvais deal. Peu importe qu'est-ce qui fait qu'il est mauvais, c'est moins bien que des contre-tarifs. Et les contre-tarifs sont moins bien que la libéralisation unilatérale. Ouais. Et la libéralisation unilatérale est moins bien que la libéralisation multilatérale. Donc, ouais. Moi, ce que je défends ici, c'est que je suis en train de dire, peu importe ce que vous pensez des deux premières options, la réponse reste toujours la même, peu importe ce que les États-Unis vont le faire. Tant qu'ils disent qu'ils veulent faire des tarifs, notre meilleure réponse, c'est
désenlever.
La libéralisation unilatérale. Donc, peu importe ce que vous essayez de faire comme triangulation dans le débat, la discussion se termine ici à tant que les États-Unis veulent faire du protectionnisme et ne veulent pas faire de la libéralisation multilatérale, notre seul choix reste le même, la libéralisation unilatérale.
Mais est-ce que les gens veulent l'entendre? C'est ça ma question. Parce que même si factuellement parlant, tu as raison, puis l'histoire le démontre, etc., ma question est là. Est-ce que les gens veulent entendre ce que tu dis présentement en disant « Regardez les faits, factuellement, c'est pas bon, c'est ça qu'ils voudraient faire » ou on est... Tu sais, il n'y a rien à faire avec
non,
nous
non,
autres.
Non, on est shooté à l'émotion, là.
Bien, présentement, tous ceux qui n'ont pas raccroché déjà avec ce que je dis, il y en a une couple qui écoute.
Bon,
donc, je vais prendre ce
on
que
va
je,
prendre ceux-là.
Je vais prendre ce que je peux avoir. Mais en même temps, je rappelle aux gens, c'est tout à fait possible que le deal était un mauvais deal.
Oui,
okay?
Effectivement, ouais. c'est bon tout, de le dire.
C'est très important, je pense même, de si, disons, même le mettons même le meilleur 10 % de ce qu'on a entendu sur le deal était vrai. Donc, que c'est pas vrai aussi extrême. Même ça, je peux de mon propre point de vue à moi, je trouverais que ça serait inacceptable. Parce que déjà, il y avait eu dans la précédente entente un certain droit de regard des États-Unis sur
ouais,
nos traités
ouais, on
commerciaux.
Avait déjà ça, ouais.
Déjà là, je trouvais que c'était, il y avait un certain degré d'inacceptabilité dans une telle concession. Mais mettons que je dis, on va prendre le meilleur scénario. Ça ne change pas du tout l'ordre des choses que je dis.
Ouais.
Donc, j'essaie de rappeler aux gens, vous pouvez dire que c'est inacceptable. Puis ce livre, très, très, très probablement inacceptable, ça ne veut pas dire que vous justifiez les contre-tarifs.
Exact.
Quand vous embarquez dans ce jeu-là, vous embarquez dans la game de framing que des gens veulent avoir. Et ce n'est pas le bon framing. Le bon framing, c'est qu'étant donné la situation merdique dans laquelle on est présentement, notre seule option, c'est la libéralisation unilatérale.
Et... t'as raison sur toute la ligne, puis t'as le droit de
diras,
pas vouloir...
Tu diras ça à ma conjointe.
On va là pour ramasser tes bossales, je sais pas, par exemple. Mais t'as raison sur ce point-là, je vais dire ça. Sur ce point-là, t'as raison sur toute la ligne. Par contre, puis je comprends que tu veux pas te aller là, puis t'as le droit, mais tu peux comprendre aussi que nous autres, des fois, c'est le fun de savoir qui nous remplit, là.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'excuse.
Ben non, mais c'est le fun aussi de se poser la question qui nous a bourrés, là? Qui nous a dit la mauvaise info, la bonne info? Mais je comprends que tu as raison. Au bout de la ligne, ça ne change pas que la réponse ne devrait jamais être on ajoute des tarifs. Là.
Ouais. Écoute, j'ai toujours aimé les phares parce que c'est un bâtiment qui, dans la nuit, ne varie jamais. Et ça te résume bien qu'est-ce que je pense de moi-même. Je ne varie pas selon les aléas de la tempête. Le propos reste le même. Le propos n'a pas besoin de changer. La fondation, elle est stable.
Monsieur Gelozo, bonjour, bonne journée.
Bonne journée.
Salut, bye. Bye. Vincent Gelozo, à qui on parlera de temps en temps pendant la saison, évidemment. Toujours le fun. 13h49, on fait une pause. Au retour, comment vont nos souverainistes dans toute cette crise et dans toute cette tempête? Ben, on le saura parce qu'on jase avec Jean-François Lisée.
Ouellet.
De qui?
En direct.
On revient dans pas long.
En direct. Radio X.